Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Barossi et Dranoué, l'évasion à l'ancienne de deux détenus toujours en cavale ce matin, sortis discrètement par la grande porte de la prison de Dijon hier matin. Lyon-Bordeaux en TGV, la nouvelle offre low-cost de la SNCF suscite la colère des élus du Massif Central, snobé par le groupe ferroviaire. Le trajet passera par l'Île-de-France et Nice au fond du trou, battu 3-0 hier soir à Porto en Ligue Europa. La série noire se poursuit pour les Aiglons.
Deux hommes toujours activement recherchés après une double évasion hier matin à Dijon.
Et une centaine de fonctionnaires de police sont aux trousses de ces deux détenus placés en détention provisoire à l'isolement dans cet établissement décrit comme vétuste. Le premier pour menaces et violences aggravées sur conjointe, le second considéré comme dangereux, incarcéré pour tentative et d'homicide et association de malfaiteurs. Il aura fallu, Julie Brouin, moins de 40 minutes aux deux hommes pour quitter leur cellule en toute discrétion.
Oui, il est à peine 6h du matin quand les détenus sortent de leur cellule après en avoir scié les barreaux avec des lames de scie à métaux. Les deux hommes prennent alors la fuite avec de simples claquettes aux pieds. L'un d'entre eux laissant derrière lui un mot provocateur, je cite « Ça fait 2 ans qu'on est incarcéré, on va aller voir ailleurs, au revoir ». Les deux détenus escaladent ensuite le toit d'un premier bâtiment puis franchissent le mur d'enceinte de la prison à l'aide de draps en guise de corde avant de se retrouver devant l'entrée principale de l'établissement pénitentiaire. C'est là qu'ils se cachent attendant que la porte s'ouvre, probablement pour laisser passer un véhicule du personnel. Il est 6h30 quand ils réussissent finalement à s'enfuir à pied, par la grande porte donc, avant de disparaître dans la nature.
Dans la foulée, des révélations de violences sexuelles en milieu périscolaire à Paris. On a appris hier la mise en examen d'un animateur écroué pour agression sexuelle sur 10 enfants dans un centre de loisirs de Marigny-Champigny. C'est en Essonne. Âgé de 28 ans, l'homme aurait commis ses faits entre 2021 et 2024. Il a reconnu des pulsions en garde à vue. 4 plaintes ont été déposées dans cette affaire dans la commune. C'est le choc. Les parents sont inquiets. Reportage Inès Egloul, Amélie Courtet.
Oui, depuis qu'ils ont appris la nouvelle, c'est la question que se posent tous les parents.
Toi, tu l'as pas connu dans le centre de loisirs des petits?
Si, je l'ai déjà connu.
Avec toi, j'étais gentil.
Je me souviens plus.
Des parents nourris par l'angoisse, l'animateur surnommé Coco a travaillé au centre de loisirs jusqu'au printemps 2024. Les deux filles d'Audrey, 9 et 14 ans, le connaissaient.
Je suis un peu choquée. C'est surtout le fait que mon enfant ait pu subir des attouchements sans que je sois au courant. Et puis d'apprendre des choses aussi graves sont assez bouleversantes.
Consternés, beaucoup le considéraient ici comme l'animateur préféré des enfants. D'autres disent de lui qu'il était au premier abord sympa, avenant. Audrey n'attend qu'une chose, interroger ses filles.
J'espère que ma fille va arriver à parler s'il s'est passé quelque chose. J'ai besoin de savoir.
C'est désormais la psychose qui s'est emparée des parents.
Comment, en tant que parent, on peut pas avoir peur?
Léa dépose son fils de 6 ans chaque semaine dans ce même centre de loisirs.
Je me dis, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance, quoi?
Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre au centre qui fait la même chose? Mon enfant, il me dit ça, mais... je sais même pas comment je réagis en fait.
Ce matin, à l'école, une psychologue et une infirmière scolaire seront présentes pour recueillir la parole des élèves.
Il est 7h03, vous écoutez RMC. Les premières candidatures au nouveau service national volontaire ouvertes dès le mois de janvier. Emmanuel Macron a donc levé le voile sur cette nouvelle mouture, affichant sa volonté d'intégrer 3000 jeunes âgés de 18 et 19 ans dès l'été prochain. Formule de 10 mois rémunérés afin de répondre aux nouvelles menaces, dit le chef de l'État qui entend également sensibiliser les plus jeunes, Thomas Baker, et ce, dès le lycée.
Oui, les élèves devront assister au moins une fois par an à une cérémonie commémorative. En classe de seconde, l'État va les inciter à effectuer leur stage d'observation au sein des armées. À 18 ans, ils répondront désormais à la journée de mobilisation, nouvelle formule de la journée de citoyenneté qui existe déjà, mais qui prend une toute nouvelle dimension. C'est à ce moment que les jeunes pourront décider de suivre le nouveau service national annoncé par le président. Là aussi, que les jeunes seront scrutés, évalués par les officiers. En cas de crise majeure déclarée en France, ces jeunes repérés seraient appelé obligatoirement au nouveau service national. Le président, qui constate une accélération des périls à l'échelle mondiale, veut faire de la jeunesse la pierre angulaire de son projet d'armée hybride, à la fois professionnelle et composée d'une réserve de forces vives prêtes à s'engager.
Et ne manquez pas le débat, vous le savez, c'est vendredi. Voix de droite, voix de gauche, le débat RMC 7h50, précisément sur cette question du retour du service militaire. Cécile Duflot, Charles Consigny.
C'était dans les cartons, c'est désormais officiel. Il faudra 5 heures pour relier Bordeaux à Lyon en 2027, annonce de la SNCF hier, ouverture d'une liaison TGV low cost Ouigo entre les deux agglomérations, un aller-retour par jour qui passera par Massy en région parisienne et qui ravive la colère des petits territoires, les oubliés du TGV dans le Massif Central. Martin Bourdin.
Ce grand détour par l'Île-de-France reste en travers de la gorge des voyageurs auvergnats.
On a vraiment le sentiment d'être leurs oubliés.
Stéphanie représente une association de voyageurs dans la région. Pour elle, comme pour les autres, se rendre en train à Bordeaux ou à Lyon est une gageure.
Pour aller à Lyon, on a un TER, mais on met moins de temps en voiture. On ne va pas à Bordeaux en train. Personne ne va imaginer passer je ne sais pas combien d'heures avec je ne sais pas combien de changements. Enfin, ça n'aurait pas de sens.
La SNCF a en fait privilégié des lignes à grande vitesse existantes. Impossible en effet de faire rouler un TGV sur les rails trop vétuste du Massif central, un territoire isolé, dénonce des élus depuis la suppression faute de rentabilité en 2014 de l'intercité transversale entre Bordeaux et Lyon. Certains maires se battent pour relancer la ligne, mais cette nouvelle liaison TGV qui contourne la région...
Ça condamne encore un peu plus la réouverture du Bordeaux-Lyon en ligne traditionnelle.
Frédéric Laporte, le maire de Montluçon.
Quelques personnes faisaient le Bordeaux-Lyon intégralement. Cette clientèle-là, elle passera par le TGV. C'était déjà une ligne qui avait peut-être un peu de mal à être rentable. Et si on enlève 10% de la clientèle, elle l'a encore moins.
Lui et d'autres maires de la région en appellent donc sans forcément trop y croire à l'État pour relancer cette ligne au nom de l'aménagement du territoire.
Et à propos de transport, mauvaise nouvelle pour les voyageurs en Île-de-France. Le prix du pass Navigo va grimper, franchir la barre des 90 euros. 2 euros de plus donc par mois dès janvier, justifié par l'agrandissement et la modernisation du réseau. Aux États-Unis, Donald Trump veut suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde. Annonce du président américain après la mort d'une militaire membre de la garde nationale. Elle faisait partie des deux soldats visés par des tirs mercredi à Washington. Pour rappel, dans cette affaire, un homme a été interpellé. Le suspect est un Afghan de 29 ans arrivé aux États-Unis en 2021.
7h06, la galère se poursuit pour Nice, dernier de Ligue Europa ce matin.
0 point au compteur pour les Niçois battus 3-0 à Porto, symbole de ce naufrage, un but encaissé 18 secondes seulement après le coup d'envoi hier soir. 5e défaite de rang, toute compétition confondue, et 5e défaite de rang dans la compétition pour des Aiglons. En crise, Aurélien Tiersin.
Ça y est, le record de 17 matchs sans victoire en Coupe d'Europe détenu par Lille est égalé par Nice. C'était attendu, c'est sans surprise, mais ça fait mal au gardien Yevan Diouf.
Chaque défaite fait mal et le fait de ne pas avoir gagné pendant 17 matchs, oui, c'est sûr que c'est d'autant plus rageant. Mais comme je dis, c'est le contenu surtout qu'on retient. Voilà, tout n'a pas été parfait, loin de là.
Absolument rien n'a été parfait. Il a surtout régné un sentiment d'impuissance absolue. C'est la 5e défaite d'affilée pour des Niçois dépassés. Le coach francaise a avoué avoir proposé à ses dirigeants de le virer pour créer un électrochoc.
Bien sûr, je me remets en cause. Je leur ai proposé que je pouvais être l'électrochoc il y a quelques jours, après Marseille. Si ça doit être la solution, je suis prêt à l'accepter. C'est, semble-t-il, à date, pas la solution. Si un jour je dois être le fusible, je le serai. Si c'est un moment pour le bien du club, eh ben ça sera pour le bien du club.
De son côté, l'OGC Nice compte toujours sur son entraîneur, mais la pression va augmenter du côté des supporters. Les 700 fans niçois à Porto ont quitté le stade à la mi-temps, consternés par le spectacle de leur équipe.
Et le leader ce matin, c'est Lyon en balade face au Maccabi Tel Aviv 6-0. Lille se relance face au Dynamo Zagreb 4-0. Enfin, en Ligue Europa Conférence, Strasbourg s'impose 2-1 face à Crystal Palace. Et puis un retour très attendu demain, celui d'Antoine Dupont. C'est du rugby avec Toulouse en top 14 dans le groupe pour affronter le Racing 92 près de 9 mois après sa grave blessure au genou survenue face à l'Irlande.
C'était le journal de Thibaut Texer. 7h08, vous réagissez à cette information qu'on vous donne depuis ce matin. Le Louvre, le billet du Louvre sera plus cher pour les touristes à partir de janvier. Bonjour Florence.
Oui, bonjour.
Florence, vous nous appelez des Ardennes et vous voyagez pas mal. Et quand vous voyagez, vous payez plus cher ailleurs ?
Tout à fait. Sur les monuments remarquables, je paye plus cher, oui.
Donc ça vous choque pas qu'on fasse payer davantage les touristes étrangers ?
Non, pas du tout. On vient, quand nous, on va à l'étranger visiter des monuments qui demandent de l'entretien, de la sécurité, qu'on mette la main à la pâte ne me dérange pas.
Moi, ce que je trouve étonnant d'ailleurs, c'est que ce n'est pas été fait plus tôt, en vrai, Florence.
Exactement.
Et il y avait même cette question à un moment de se dire, est-ce que les étrangers ne devraient pas payer, par exemple, quand ils viennent visiter Notre-Dame, qui est gratuit pour les Français, mais qui aurait pu...
Ah, mais c'est pas normal que ce soit être gratuit.
Bah oui. Oui, non, mais moi je suis assez d'accord avec vous. Au fond, pourquoi est-ce que, quand on va en Italie et qu'on veut visiter une église, on paye?
Et moi, je suis allée à Istanbul, la grande mosquée, j'ai payé plus que les Turcs.
Mmh. Et ça vous a pas choqué? Vous l'avez fait?
Pas
ça
du
vous
tout.
A pas. Disons que vous n'avez pas fait demi-tour parce que vous auriez été rebuté par le tarif.
Absolument pas. Moi, je trouve ça complètement normal.
Complètement normal. Merci Florence d'être passée par le 32-16. Il est 7h09. Bonne journée. Oh. Et un prison break.
Apolline Matin.
Un prison break à la sauce dijonnaise. Deux détenus de la prison de Dijon ont scié les barreaux de leur cellule et ils ont pris la fuite en tong en passant par les toits de la prison. Bonjour Sacha Stropkan.
Bonjour.
Difficile votre job ce matin parce que vous êtes le porte-parole du ministère de la Justice et honnêtement, quand on voit ce qui s'est passé hier, on se dit que c'est un peu un aveu d'échec quand même pour les prisons de France. Comment ça s'explique? Surtout que cet épisode, il intervient après la fuite d'un détenu il y a 15 jours lors d'une sortie à Rennes, lequel a quand même été retrouvé hier. On en a perdu deux, mais on en a retrouvé un. Je vous interroge dans un instant, il est 7h10.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC. C'est une évasion tristement banal et on aimerait en rire, mais franchement, ça n'est pas drôle. Deux détenus de 19 et 32 ans qui ont scié les barreaux de leur cellule, qui ont noué leurs draps et qui se sont enfuis en tong en passant par les toits de la prison. Ça s'est passé hier matin à Dijon. Bonjour Sacha Stropkan.
Bonjour, merci.
Vous êtes
de votre
le
invitation.
Porte-parole du ministère de la Justice. D'abord, est-ce qu'ils sont toujours dans la nature, là, les deux?
Alors, deux choses. Déjà, vous avez dit tristement banal. Heureusement, ça n'est pas tristement banal, puisque les évasions par bris de prison, c'est comme ça qu'on appelle ça, jusqu'à maintenant, en 2025, il y en avait une seule. Donc, heureusement, l'administration pénitentiaire et les agents pénitentiaires...
Donc, c'est banal dans les bandes dessinées et les dessins animés, mais ce n'est pas si banal dans les prisons.
Heureusement, dans la réalité, les personnels pénitentiaires que je salue savent faire leur travail très correctement, dans des conditions difficiles, et ça n'est pas banal. Une enquête est en cours, qui est pilotée par le parquet de Dijon. En plus de cette enquête judiciaire, vous avez le garde des Sceaux hier qui a annoncé une enquête administrative qui est confiée à l'inspection générale de la justice pour, sur le plan administratif, faire la lumière sur ce qui a pu se passer au sein de la maison d'arrêt de Dijon et sur la recherche des deux fuyards. Évidemment, c'est le parquet de Dijon qui communiquera, mais je pense que vos auditeurs ont bien en tête qu'en France, quand on s'évade, on est toujours in fine rattrapé par la patrouille.
Et d'ailleurs, la journée d'hier, deux de perdus, mais un de retrouvé, puisque l'évadé de Rennes, qui s'était échappé au moment d'une sortie au planétarium, a été retrouvé hier.
Effectivement, c'est un contexte totalement différent puisque c'est un peu moins rocambolesque. Il n'empêche que ça a fait suite effectivement à une sortie culturelle au planétarium et suite à ça, le directeur de l'administration pénitentiaire a ordonné des sanctions, en tout cas une procédure disciplinaire contre un directeur de l'administration pénitentiaire puisque les consignes qui avaient été passées par le garde des Sceaux sur ces sorties culturelles n'avaient pas été respectées.
Enfin, il y a quand même une chose que j'aimerais bien comprendre, c'est que l'un de ces deux évadés d'hier. Il avait son compte TikTok depuis la prison, un compte TikTok qui d'ailleurs portait le nom de la prison, où on pouvait suivre ses aventures, j'allais dire, dans la prison. Comment c'est possible que nous tous, on puisse le voir sur TikTok et qu'au sein de la prison, ça ne soit pas anticipé, qu'on ne se dise pas, bah tiens, si ce film depuis sa prison, déjà ça veut dire qu'il a un téléphone portable, d'autre part ça veut dire qu'il a accès à Internet. Enfin bref, il n'y a rien qui va dans cette histoire.
Alors la question que vous vous posez est une question légitime et je pense que plus personne ne le comprend, qu'il suffise d'allumer TikTok pour voir effectivement des détenus dans leur cellule, voir des détenus cuisiner. Deux choses, la maison d'arrêt de Dijon était une maison d'arrêt qui est connue pour des failles structurelles, c'est pourquoi on a annoncé fin de semaine dernière, le garde des Sceaux a annoncé un plan de sécurisation de 6 établissements pénitentiaires pour un montant de 30 millions d'euros qu'il a obtenu auprès du Premier ministre, et parmi ces 6 établissements, vous aviez la maison d'arrêt de Dijon. Ça, donc dans les prochaines semaines, vous allez avoir pour 6 millions d'euros de travaux de sécurisation, concrètement c'est la lutte anti-drone par exemple, c'est-à-dire couvrir les cours de
promenade. Mais pardon, on n'a pas besoin de 6 millions d'euros pour, quand on regarde sur TikTok, alors ça c'est gratuit, hein, vous pouvez le regarder sur votre téléphone portable, vous voyez de quel détenu il s'agit, vous voyez de quelle cellule il s'agit, dans l'heure vous pouvez aller lui piquer le téléphone, non ?
Effectivement, et vous avez un deuxième aspect au-delà de ces sécurisations, puisque le but, mine de rien, c'est quand même lié, c'est d'éviter que les portables rentrent en détention. Et le deuxième aspect, c'est évidemment que vous aurez toujours des choses par des moyens divers et variés qui rentreront en prison, c'est de lancer des grandes opérations de fouilles qui ont été lancées au début de semaine par le garde des Sceaux à Nanterre. En gros, 200 agents mobilisés, à la fois des policiers, à la fois des personnels pénitentiaires. Et en gros, l'objectif est d'ici le 31 décembre 2025, donc d'ici la fin de l'année, de fouiller toutes les cellules de maisons d'arrêt. En gros, envoyer le signal très clair aux détenus que même si des choses rentrent, au final, ils seront toujours rattrapés et ces téléphones ou les objets dangereux seront saisis et ils seront sanctionnés.
Il y a aussi une question, on apprend ce matin que l'un des 100 détenus de Vendin-le-Vieil, donc parmi ceux qui sont fléchés, ciblés comme étant les 100 plus dangereux détenus dans le narcotrafic, a été en réalité relaxé par la justice. Il était accusé de trafic de stupéfiants. Il faisait de la prison de manière anticipée, mais finalement, il n'a pas été condamné. Il a été libéré le 10 novembre, relaxé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il avait été transféré dans cette prison de Vendin-le-Vieil en juillet. J'aimerais comprendre comment quelqu'un qui, aux yeux du ministère de la Justice, est l'un des 100 plus dangereux de France, peut ensuite, ou dans le même temps, être, aux yeux des juges, considéré comme innocent.
Alors, moi, je ne vais pas commenter une décision de justice. Je suis magistrat et évidemment, je suis très attaché à ce que les juridictions puissent rendre des décisions de façon indépendante et donc je ne la commenterai pas. Par contre, pour donner quelques éléments d'explication à vos auditeurs, évidemment que vous avez à Vendin-le-Vieil des gens qui sont ce qu'on appelle en détention provisoire. C'est valable pour des gens qui sont pour du narcotrafic et il y en a plein dans les prisons françaises. Vous avez à peu près un tiers de la population pénale qui attend d'être jugée. Donc, évidemment, vous avez des gens qui font éventuellement de la détention provisoire parce qu'un magistrat, je tiens à le dire, c'est pas le ministère de la Justice qui place les gens en détention provisoire, c'est des magistrats indépendants qui prennent la décision de les placer en détention provisoire et qui ensuite, un jour, sont soit condamnés, soit éventuellement relaxés, auquel cas, bah, évidemment, ils sont libérés. Mais tout ça repose sur un système assez classique de l'état de droit, c'est-à-dire que vous avez des magistrats qui examinent le dossier de quelqu'un et qui décident soit de le placer en détention, soit de le laisser libre, et ensuite, vous avez un tribunal qui soit condamne cette personne, soit la relaxe.
Et il y aura peut-être appel ?
Alors, en tout cas, je crois que c'était, je vous avoue que je connais pas le détail du dossier. Je crois que c'était déjà une procédure d'appel, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, si c'est le cas, éventuellement, le parquet pourra faire appel.
Merci beaucoup, Sacha Stropkan, d'être venu ce matin.
Merci.
Porte-parole du ministère de la Justice à ce micro à RMC. Il est 7h19. Et Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour, Arthur.
Bonjour, Apolline.
Arthur, notre historien du matin. Comme à chaque fois qu'on approche de Noël, la polémique revient depuis 10 ans maintenant. Est-ce qu'on peut, oui ou non, installer une crèche de Noël dans une mairie?
Oui, la mairie de Béziers et des associations s'affrontent sur cette question. Les crèches, c'est une tradition du XIIIe siècle. Et pas de doute, à l'origine, c'était religieux.
A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. On va remonter le temps, comme chaque matin, avec Arthur Chevalier. Arthur, une manifestation est prévue demain à Béziers. Des protestataires qui s'opposent à l'inauguration de la crèche de Noël dans l'enceinte de la mairie. C'est un combat dont on a l'impression qu'il revient chaque année. Et depuis 10 ans maintenant, au nom de la laïcité, ces manifestations ont lieu une nouvelle fois. Le maire de Béziers, Robert Ménard, se défend.
Oui, avec un argument qui tient plutôt la route. Pour lui, la crèche n'est pas un symbole religieux, c'est une façon de rassembler les gens. Bref, les crèches, ça serait de la culture et pas de la religion.
Bon, à l'origine, les crèches, c'est bien religieux.
Oui, incontestablement, Apolline, le premier à avoir eu l'idée de monter une crèche, c'était d'ailleurs un saint de l'Église catholique, François d'Assise, et c'était pour la nuit de Noël de l'année 1223, dans un village italien qui s'appelle Greccio. Ce village existe toujours aujourd'hui. Et alors, cette première crèche avait une particularité, c'était avec des vrais humains et des vrais animaux, puisqu'en fait, à l'origine, les crèches, c'était un spectacle public et grandeur nature, comme une sorte de pièce de théâtre, si vous voulez.
En France, ça arrive quand ?
Alors, ça arrive au XVIIe siècle, et comme ça venait d'Italie, forcément, ça passe par la Provence avant de conquérir toute la France. D'ailleurs, les fameux santons qu'on met dans la crèche, c'est une création provençale. Santun, ça veut dire petit saint en provençal.
Petit saint en provençal, santon. Tout le monde avait une crèche chez soi, comme aujourd'hui ?
Alors non, pendant longtemps, les crèches étaient dans les églises ou dans les lieux publics. Elles n'arrivent chez les particuliers qu'au moment de la Révolution française. Logique, comme la Révolution était anti-religieuse, on avait interdit les crèches dans les lieux publics. Donc les gens ont trouvé la parade. Faire des petites crèches chez soi, des crèches clandestines si vous voulez. Au début, ça a commencé comme ça.
Ça reste un symbole religieux.
Techniquement, oui. Mais au 19e siècle, dans les faits, les crèches vont surtout devenir un objet populaire. Même si on garde le petit Jésus et les animaux, tout autour, on crée un décor avec des personnages typiques d'une région ou d'un village. Bref, ça devient un élément du folklore local, quelque chose de patrimonial et plus seulement un symbole religieux.
Est-ce que les Français sont encore attachés à cette idée de la crèche ?
Plutôt, Apolline, plutôt. 4 Français sur 10 déclarent installer une crèche chez eux. La même proportion déclare d'ailleurs mettre une crèche par goût de la tradition plutôt que par conviction religieuse. La loi de séparation de l'Église et de l'État ne tranche pas la question des crèches dans les mairies. Elle laisse les tribunaux administratifs juger au cas par cas. Alors, il y a des critères, mais franchement, ils sont très vagues, puisque les signes religieux peuvent être autorisés si c'est dans un cadre festif, culturel ou artistique. Bon, c'est à l'appréciation des magistrats.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. 7h24, Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Bonjour.
Arnaud d'en face à face tout à l'heure sur RMC BFM TV. Je reçois la représentante des directeurs de prison. Elle est elle-même l'ancienne directrice de la prison de la santé, Flavie Rau. Tout à fait.
Rau. Flavie Rau. Après des évasions de prisonniers à Rennes et à Dijon, elle doit répondre aux questions d'une Apolline dans le rôle du flic moustachu. Car en ce moment, dans les prisons françaises, on est plutôt sur une ambiance « Faites sortir l'accusé, qu'est-ce qui se passe ? C'est des passoires nos prisons ? Le détenu qui s'est évadé au planétarium de Rennes ? Les deux évadés de Dijon ? Boualem Sansal ? Boualem, 82 ans.
Non.
82 ans, il réussit à sortir. Un problème de sécurité. Alors Flavie Rau reviendra donc sur la spectaculaire évasion de deux détenus à Dijon. Et quand je dis spectaculaire, en plus, pas du tout. Vous l'avez vu le truc? C'est vraiment l'évasion comme dans les BD, quoi. Ils ont scié les barreaux et ils ont fait une corde avec leur drap. C'est l'évasion. J'ai vu la même dans Super Picsou Géant. C'est-à-dire, sur la vidéo de surveillance, on voit très nettement Matt Dalton qui débarque en prison avec un gros gâteau dans lequel il y avait une lime. Les surveillants sont rentrés dans la cellule avec leur fusil. Les détenus, ils ont mis une carotte dedans. Ils ont dit, quoi de neuf, docteur? Et ils se sont barrés. Et voilà.
C'est tellement ça.
C'est tellement cartoonesque. Puis alors en plus, scier des barreaux, je sais pas, c'est que ça se remarque. Enfin, c'est quand même un son particulier, quoi. Ça fait toute la journée. Si vous cherchez à vous endormir le soir et que vous tapez dans Google ASMR, il vous propose pas sciage de barreaux en métal dans les suggestions. C'est pas un son qui se fond très bien dans le décor.
C'est vrai.
Si ça se trouve, les gardes ont pas entendu parce que dans la cellule d'à côté, il y avait un gars qui essayait de creuser un tunnel au marteau piqueur. Non, et moi qui pensais que la prison c'était impossible de s'en échapper, ben en vrai ça semble beaucoup plus simple d'en sortir de prison que de sortir d'une conversation téléphonique avec votre mère, quoi. Ben on est tous un peu les mêmes, on a tous subi ça. Si les prisons françaises étaient un escape game, moi je demanderais un remboursement. On sort trop facilement. Alors Gérald Darmanin a envie de resserrer les boulons. Cette semaine, il a fait fouiller la prison de Nanterre. Ils ont trouvé 70 portables, des cartes SIM, des chargeurs, des câbles USB. Et en 2024, la pénitentiaire a trouvé 79 526 smartphones et accessoires. Ouais, la prison, c'est pas le Club Med, mais c'est la FNAC, hein, quand même. J'avais besoin d'un truc, c'est là qu'il faut aller pour Noël. Alors, les réactions politiques n'ont pas tardé. Nicolas Sarkozy a réagi devant ces évasions incompréhensibles. Il a dit, mais comment ça se fait que des détenus se soient évadés, alors qu'il suffit d'attendre 21 jours et après tu sors, tu refais ta vie, tu fais un bouquin. C'est une excellente question qu'on posera à Flavie Rau à 8h30.
C'était Arnaud Demange qu'on retrouve donc tout à l'heure vers 8h15 sur RMC et en podcast à tout moment sur l'application. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30 et dans 10 minutes, le TGV. Bordeaux-Lyon, direct, passera par la région parisienne, bah oui, c'est pas très logique. Et déception des villes du Massif Central. On sera en direct avec la maire de Guéret dans la Creuse qui ne comprend pas que le Lyon-Bordeaux ne passe pas par chez elle. Il est 7h27, à tout de suite. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un billet 10 euros plus cher pour visiter le Louvre. Les visiteurs non européens devront payer cette hausse de 45% dès janvier. Attaquée au couteau par l'homme qu'elle hébergeait, une conseillère municipale de Guérande tuée, le suspect interpellé. Et puis le harcèlement scolaire n'existe pas qu'entre élèves, mais aussi entre les personnels de l'éducation nationale.
Le Louvre gonfle son tarif pour les touristes étrangers.
Les visiteurs non européens vont devoir débourser 10 euros de plus pour visiter le musée à partir de janvier. Pour les Américains, les Chinois qui représentent la plus grande partie de ces visiteurs, le billet va donc passer de 22 à 32 euros. Une hausse de 45% pour renflouer les caisses du Louvre, mais qui a du mal à passer pour les premiers concernés, Alfred Orange.
Dans la cour du Louvre, c'est Patricia qui met le premier coup de pinceau.
En tant que Mexicaine, je trouve ça complètement injuste. Il y a des œuvres inestimables dans ce musée et on devrait tous avoir le droit de les contempler pour le même prix.
À sa droite, Michel, venu du Pérou en famille, en remet une couche.
C'est à l'État français de payer, c'est un musée national, non? Les impôts, normalement, servent à ça.
puestos para eso, ¿no?
D'autant que pour 4 personnes, le prix d'entrée atteindrait 128 euros.
Avec cette somme au Pérou, vous faites une semaine de course pour 4, vous imaginez?
Le Louvre espère 15 à 20 millions d'euros de recettes supplémentaires chaque année pour faire face aux problèmes structurels du musée. Mais attention, prévient Michael.
Ça peut se retourner contre eux. Moins d'Américains viendront si le prix est trop élevé.
C'est aussi faire offense à l'esprit du lieu, Saint-Sur Givon, passionné du Louvre.
Le musée a été créé par la Révolution française. L'idée, c'est d'avoir un musée ouvert à tout le monde. En discriminant sur les tarifs, c'est déjà, pour moi, un peu le fermer. Je n'aime pas ça.
Et le symbole est important. L'année dernière, sur les près de 9 millions de visiteurs, 69% d'entre eux venaient de l'étranger.
Deux détenus toujours en cavale ce matin. Ils se sont évadés hier de la prison de Dijon en sciant les barreaux de leur cellule. Ils étaient à l'isolement, placés en détention provisoire. Un homme de 32 ans pour violence conjugale, l'autre de 19 ans, soupçonné d'avoir participé à un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. À Guérande, une conseillère municipale tuée chez elle. C'est un homme qu'elle hébergeait chez elle qui est soupçonné de l'avoir tué au couteau. Ça s'est passé avant-hier. Une femme de 78 ans, très impliquée dans la vie associative de la commune. C'est pour cela que les habitants sont particulièrement émus, Cassandre Brault.
Oui, c'est le cas de Eric. Il exposait les œuvres de la victime dans son château et devait la revoir dans les prochains jours.
C'est horrible, c'est affreux en fait. Je suis bouleversé par cette disparition.
La conseillère municipale a été tuée à son domicile. Le suspect est un homme de 34 ans qu'elle hébergeait depuis le 16 novembre dans le cadre d'un dispositif associatif.
C'est une femme qui rayonnait de gentillesse et de générosité et qu'elle va me manquer, voilà, tout simplement.
La gorge serrée, Yves a du mal à trouver les mots.
Ça n'aurait jamais dû arriver. Je pense qu'elle faisait l'essayer de faire du bien autour d'elle et ça lui a pas porté chance.
Sylviane aussi a déjà hébergé des jeunes en situation difficile.
Ça fait peur. On n'a jamais eu aucun problème. Mais maintenant, je pense que je ne le ferai plus parce que j'ai plus trop confiance. Je ferai attention davantage, quoi.
Un registre a été mis à disposition à la mairie de Guérande pour rendre hommage à la victime.
Cassandre Brault avec Martin Lange pour RMC. L'Assemblée nationale adopte une loi visant à nationaliser ArcelorMittal, le groupe de sidérurgie en pleine crise. Proposition de loi portée par la France Insoumise qui se félicite d'une victoire pour les salariés et la souveraineté industrielle. Mais le texte doit encore passer par le Sénat où la droite et le centre sont majoritaires. Le gouvernement estime, lui, que cette bataille doit se mener à l'échelle européenne. On en vient à cette enquête sur le harcèlement dans l'éducation nationale. C'est le choix de la rédaction ce matin sur RMC. On parle souvent de harcèlement entre élèves, mais jamais du harcèlement entre personnel de l'éducation nationale. Bérangère Bocquillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service société à RMC. Vous avez donc enquêté. Des chercheurs parlent d'un doublement d'écart en 10 ans.
Oui, et c'est l'histoire de Thierry Dinard. Il est proviseur depuis 13 ans dans les Hauts-de-France. Et alors qu'il tente de réformer son lycée en 2023, il raconte qu'une dizaine d'enseignants se liguent contre lui.
Il s'agissait de plus me saluer, de plus parler avec moi, de ne pas écouter ce que je pouvais dire en réunion. J'ai découvert d'ailleurs plus tard qu'un mail où un personnel se réjouissait de mon éventuel décès avait circulé. J'ai pensé à mettre fin à mes jours.
Le rectorat d'Amiens affirme qu'il n'a jamais cessé d'accompagner ce proviseur, car depuis 2 ans, l'éducation nationale a mis en place un dispositif de signalement. Mais 93% des personnes qui ont contacté l'association Helpen, qui lutte contre le harcèlement, déclarent que leur signalement n'a servi à rien. François René est secrétaire national communication du syndicat des personnels de direction. Il constate que les rectorats font des efforts, mais ça reste très compliqué.
Les solutions qu'on propose peuvent être parfois perçues comme celles où la victime va être pénalisée. Parce que les réponses, le déplacement des gens, c'est pas si simple que ça. La sanction des gens, c'est ça peut-être qu'il faudrait oser parfois, mais c'est long. Et puis avec un principe général, celui de fonctionnaire, donc ça prend sans doute plus de temps qu'ailleurs. Ça, c'est incontestable.
Selon l'association Helpen, quand vous dénoncez un fait de harcèlement dans l'éducation nationale, 7 fois sur 10, la situation se retourne contre vous.
Bérangère Bocquillon, chef du service société d'RMC. En football, la victoire écrasante de Lyon en Ligue Europa, victoire 6-0 contre le Maccabi Tel Aviv dans cette 5e journée, avec un triplé de Corentin Tolisso, le Lyonnais très heureux après la rencontre.
Ça fait plaisir, c'est la première fois pour moi que je mets un triplé. En plus, hier, on était avec les kinés, on regardait le match de Paris et quand Vitinha a mis 3 buts, je leur ai dit que moi, mon rêve, c'est de mettre un triplé une fois dans ma carrière, juste une fois. Après, souvent, on met un triplé avec un penalty, mais voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à mettre un triplé sans penalty. Je suis très content que ça a pu aider l'équipe à gagner.
De son côté, Lille l'a emporté 4-0 contre le Dynamo Zagreb. C'est toujours compliqué par contre pour Nice qui s'est incliné 3-0 contre Porto. Et puis ce soir, c'est le retour de la Ligue 1. Metz reçoit Rennes à 20h45. Ce sera à vivre sur RMC.
Le Quintet, Vincennes ce soir, 20h15.
La Dream Team des courses à RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 7, Jovial au fort. L'outsider, c'est le numéro 11, Demi Dov Kla, le 7 et le 11.
C'était le journal de Clara Gabillet. Il est 7h37. Au 32-16, vous réagissez à ces évasions de prison. Deux évadés hier à la prison de Dijon qui ont scié leurs barreaux, noué leurs draps et qui sont partis en tongs par les toits de la prison. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Dominique, vous êtes chef d'entreprise à Montigny-les-Cormeilles dans le Val d'Oise. Comment vous réagissez ?
Ah ben, je réagis que, effectivement, bon, c'est toujours dommage que des gens puissent s'évader, mais ceci étant, c'est la différence de traitement qui existe entre le directeur qui se fait pourrir de suite, et par contre, la directrice du Louvre, qui se paye une cuisine à 500 000 euros, elle, par contre, n'est pas responsable. Quelle différence de traitement ? On se demande pourquoi, en fait.
Alors, vous parlez du casse du Louvre, et en effet, c'est vrai que ce genre d'histoire, on se dit à chaque fois, mais c'est quand même hallucinant. Le patron de la prison de Rennes, en effet, a été sanctionné. Rennes, où il y avait eu une évasion il y a deux semaines, à l'occasion d'une sortie planétarium. L'évadé a été retrouvé hier. Et le Louvre, alors, effectivement, il n'y a pas de sanction. Tout le monde excuse la directrice du Louvre. Alors, elle ne s'est pas payée pour elle une. Il faut quand même préciser les choses. Hein.
Oui, non,
elle
ne
s'est
pas
payée pour elle une cuisine à 500 000 euros. Hein. Elle a refait la cuisine du personnel du Louvre. Allez-y, je vous écoute, Dominique.
Par contre, l'évadé, on l'a retrouvé. Les bijoux, on les a toujours pas retrouvés.
Ça, c'est clair. Aucune trace des bijoux. L'évadé du planétarium, il a été retrouvé hier. En fait, Dominique, ce qui vous choque, c'est qu'il n'y ait pas de responsable. C'est que,
C'est toujours pareil. On cherche toujours le lampiste, le ceci, le cela. Mais en fait, les responsabilités, si on est patron, responsable ou autre, on doit assumer ses responsabilités. Elle a présenté sa démission au Louvre. Il devait l'accepter. Elle est responsable. Sinon, ça sert à quoi d'être responsable ? À rien. Moi, chef d'entreprise, ce qui est bien, c'est moi. Ce qui est mal, c'est moi aussi. Hein, c'est la règle.
C'est la règle. Et vous aimeriez qu'elle soit aussi pour les hauts fonctionnaires. Merci beaucoup, Dominique, d'être passé par le 32-16. Comme Dominique, vous n'hésitez pas. Vous réagissez soit au 32-16, soit sur le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424. 7h39 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Le train en provenance de Bordeaux et à destination de Lyon ne passera pas par Limoges, Guéret, Clermont-Ferrand, Vichy et Saint-Étienne.
Et ça vous énerve. Marie-Françoise Fournier, bonjour. Vous êtes la maire de Guéret dans la Creuse, et on l'a appris hier, le TGV Bordeaux-Lyon va faire le tour de l'Auvergne, passer par la région Île-de-France et ne donc pas desservir toutes les gares de Guéret, de Clermont-Ferrand ou de Vichy. La SNCF qui a décidé de faire passer le TGV Lyon-Bordeaux par la région parisienne, pour vous, c'est inacceptable. Et vous nous le dites dans un instant, il est 7h40.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43, très belle journée à l'écoute d'RMC. Pour aller à Bordeaux depuis Lyon, il faudra passer par Paris. Bonjour Marie-Françoise Fournier, vous êtes la maire de Guéret dans la Creuse. La SNCF a annoncé hier que la liaison directe en TGV entre Bordeaux et Lyon ne passerait pas par l'Auvergne, ne passerait pas par votre ville, mais par la région parisienne, par Massy en Essonne. J'imagine que c'est une grosse déception.
Ah, nous sommes très très en colère. Je dirais que le centre de la France reste une fois de plus à quai. Ce n'est pas la première fois. Je crois vraiment que la diagonale du vide, elle existe. On a une ligne Paris-Orléans-Toulouse qui dysfonctionne sans arrêt. On ne sait jamais quand on va partir ni quand on va arriver. On nous supprime toutes les petites lignes intérieures qui relient les préfectures à leurs sous-préfectures ou les préfectures entre elles sur le centre de la France. Et maintenant, c'est le Bordeaux-Lyon. On a investi massivement pour le train qui était proposé entre Bordeaux et Lyon par la société Railcop, qui devait traverser nos territoires. On était 15 000 sociétaires, dont une grande majorité de collectivités, pour soutenir cette initiative. Ça prouve qu'on a envie de se battre pour nos territoires. Et face à nous, on a une SNCF et un État qui sont sourds, qui sont muets. Je me demande vraiment si on veut la mort de nos territoires. Nos territoires ruraux, et je dis attention de ne pas sacrifier ces poumons d'oxygène qu'on représente et qui très bientôt, je pense, seront utiles aux grandes métropoles. On est vraiment les oubliés, les sacrifiés. Puis je voudrais quand même dire aussi que l'égalité entre les territoires et l'égalité entre les hommes dans ce pays, ça n'existe plus, puisque on bloque notre développement, notre possibilité de développement. Je voudrais juste terminer en disant qu'on est à une époque où on promeut les mobilités douces et on oblige tout un tas de territoires à utiliser uniquement la voiture. La ville de Guéret fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine. On n'a aucun moyen de joindre Bordeaux.
Madame le maire, je vous ai laissé dire tout ça parce qu'au fond... Non mais au contraire, j'ai envie de vous dire honnêtement, Qui pourrait rester sourd à ce que vous dites ? On a quand même l'impression que tout le centre de la France, le Limousin, l'Auvergne, sont en effet les oubliés quand on essaye de prendre le train, quand on essaye de traverser. Vous espériez que c'était l'occasion de désenclaver la région. L'option de passer par Guéret était clairement sur la table. Et finalement, c'est le choix de passer par Massy. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder la carte pour se dire que tout ça est absurde. Jean Castex est le nouveau PDG de la SNCF. Est-ce que vous pensez qu'il est encore temps qu'ils vous entendent ?
Écoutez, je ne pense pas. Quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. Donc on nous dit que la ligne transversale serait trop chère. Bien sûr, ça fait des années qu'on n'entretient pas les rails et maintenant on nous dit qu'ils ne sont plus en capacité de fonctionner. On nous dit que ce train ne serait pas assez rempli. Bien sûr, quand on supprime un train, les voyageurs prennent d'autres habitudes. Donc moi, je n'y crois plus du tout. Par contre, j'invite Monsieur Castex à venir faire un petit tour sur nos régions centrales, de voir le potentiel qu'on a et qui reste immobilisé par des décisions ministérielles de ce type-là.
Merci beaucoup. Merci d'avoir choisi RMC ce matin pour exprimer votre déception, votre désolation même, on peut le dire. Marie-Françoise Fournier, donc maire de Guéret dans la Creuse. Il est 7h47 et droite, gauche se sont installés autour de moi. Charles Consigny, Cécile Duflot, nos deux débatteurs du vendredi sur RMC. Bonjour à tous les deux. Emmanuel Macron a officialisé hier le retour du service militaire, un service militaire volontaire pour les jeunes, 18 à 25 ans, obligatoire pour certains profils en cas de crise grave. Il veut aussi faciliter les stages dans les armées, remettre du militaire chez nos jeunes. Est-ce que c'est une bonne chose ? Vous en débattez dans deux minutes. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Avant d'entendre débattre Charles Consigny et Cécile Duflot, le bonus, Mathieu, avec le retour des Guns N' Roses à Paris.
Le groupe de hard rock du milieu des années 80 aux années 90, c'est toujours en forme, faut croire. Et c'est ce matin,
c'est ma jeunesse,
qu'ouvre la billetterie pour les deux concerts à l'Accor Arena, 1er et 3 juillet prochain. Alors vous ressortez, Apolline, les vestes en jeans sans manches, les bandanas, les t-shirts avec des revolvers et des roses. Retour à l'époque où les chansons s'arrêtaient pour des solos de plusieurs minutes. Les Guns ont annoncé leur tournée mondiale avec un show de drones dans le ciel de Los Angeles, avec des titres de chansons, des pistolets qui tirent des fleurs. Alors c'est pas leur premier retour, mais c'est la première fois qu'on va vraiment revoir les Guns, le vrai casting original, le chanteur, sa voix nasillarde, son bandana, ses cheveux, le guitariste emblématique qu'on nous dit toujours avec des vestes en cuir sans rien en dessous et des grosses lunettes de soleil, des chapeaux, la clope au bec, je ne sais pas, en 2025. Et puis les Guns ouvrent donc aujourd'hui la billetterie pour deux concerts parisiens l'été prochain, avec des tarifs, notez-le quand même, qui vont de 80 à plus de 200 euros.
RMC, Apolline Matin,
le débat.
Et chaque vendredi, voix de droite, voix de gauche, Charles Consigny, bonjour.
Bonjour.
Cécile Duflot, bonjour.
Bonjour.
Hier, Emmanuel Macron a donc officialisé non seulement le retour du service militaire, mais aussi l'idée de remettre du militaire chez les jeunes, qu'ils assistent à des cérémonies d'hommage, qu'ils fassent peut-être même des stages dans l'armée. Remettre du militaire chez les jeunes, tiens, Cécile Duflot, c'est une bonne chose ?
D'abord, il faut dire que le service militaire volontaire, il existe déjà. Alors, ça marche pas, mais c'est
ce qui avait été annoncé quand le service militaire a été abandonné. Ensuite, on comprend bien quand même que Emmanuel Macron a du mal à digérer l'arrêt du SNU. On se souvient les tambours, les trompettes, les années, les voilà. Donc, on voit bien quand même qu'il y a un sujet autour de comment on mobilise les jeunes autour du patriotisme, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et je pense qu'il y a d'autres moyens que le service militaire.
Donc, c'était pas ça pour vous qu'il fallait faire.
Bah, d'autant que, en fait, la question c'est de savoir est-ce que ça va vraiment être utile à l'armée. Moi, j'ai pas entendu dire que 10 000 jeunes, ça allait changer les choses. Donc moi, j'aimerais bien qu'on dise, est-ce que c'est ça dont l'armée française a besoin? Est-ce que c'est d'autres choses? Qu'il y ait de nouvelles menaces, c'est certain. Mais on voit bien quand même qu'il y a une espèce de vieille lune et de jeu d'annonce de la part d'Emmanuel Macron.
Charles.
C'est peut-être un peu le cas, effectivement. Moi, je pense que le service national universel, le SNU, était une mesure foireuse, très gadget, avec ses uniformes ridicules et un contenu qui n'était pas clair. Donc, je préfère qu'on revienne à un service militaire plus classique.
Obligatoire?
Non, alors moi, à titre personnel, je serais favorable effectivement à un service militaire obligatoire.
Vous l'avez fait, Charles ?
J'ai pas l'âge, malheureusement. J'étais trop jeune pour faire le service national, pour faire le service militaire. Mais je pense que ce serait une bonne chose pour notre pays. Et je pense d'ailleurs que la gauche devrait le soutenir, puisque c'est une des rares façons et une des meilleures façons de faire se mélanger les Français, les jeunes Français. Quand on fait son service militaire, quand on faisait son service militaire, on se retrouvait avec des gens très différents de nous et on était, tous embarqués dans au service de la France. Donc je pense que c'était une bonne chose, mais je pense que c'est aussi une bonne chose ce service sur la base du volontariat, et je crois que ça
c'est mieux que rien, quoi.
Fera du bien à tout jeune qui s'y engage.
Avec l'idée quand même, il y a une sorte de petit astérix dans ce qu'a dit le chef de l'État, il a quand même précisé, je cite, qu'en cas de crise majeure, le service pourrait donc être obligatoire pour certains profils repérés par l'armée. Ça vous inquiète, Cécile?
Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais vraiment, je pense qu'il y a un sujet. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que les plus fans du service militaire, souvent, ils s'en sont fait dispenser, y compris chez un certain nombre de dirigeants politiques qui donnent beaucoup de leçons. Moi, j'ai vécu l'époque où les gens de mon âge faisaient le service militaire. D'abord, c'est pas vrai sur le mélange. Ça a pu être vrai il y a très très longtemps, mais on savait que tous ceux qui avaient fait des études, ils échappaient d'une manière ou d'une autre. Il y avait plein de passe-droits, de pistons. Donc, c'était plus du tout ce moment de brassage. Et si on veut faire un moment de brassage, et là, pour le coup, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis plutôt favorable. D'ailleurs, le service civique, le service qui peut prendre une forme militaire, mais qui peut prendre plein d'autres formes, parce que les menaces auxquelles on va faire face, elles sont diverses. Et donc, je pense que oui, on pourrait imaginer ça. Mais il faut que ce soit à la fois volontaire, mais il faut aussi que ce soit intéressant pour les jeunes. Une partie du SNU, c'est que ceux qui en ont fait l'expérience, dans Drarka, c'était bien, dans plein d'autres, ça n'avait aucun sens.
Le service militaire obligatoire à l'époque, c'était pas forcément très intéressant. Ils vous racontent tous leur corvée.
Exactement, c'est exactement ça. Ceux qui ont fait le service militaire, et d'ailleurs si on a abandonné la conscription, c'est que l'armée en avait moins besoin, et surtout que ça prenait énormément d'énergie, et que ça rendait plutôt un certain nombre de jeunes allergiques à l'armée que l'inverse.
Alors justement, cette idée de faire même des stages, dès la troisième, dès la seconde, à l'armée, qu'est-ce que vous en pensez, Charles ?
Mais j'y suis favorable, et d'ailleurs je suis même moi favorable plus largement à ce qu'on utilise l'armée à des fins éducatives. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de jeunes qui sont en décrochage scolaire, qui basculent dans la délinquance ou la criminalité ou dans la consommation de drogue, quels que soient les milieux sociaux, je pense que un bon petit stage à l'armée avec le réveil à 6h du matin, quand c'est pas 5h d'ailleurs à l'armée, le lever du drapeau et nettoyer le Charles de Gaulle, ça me paraîtrait de très bonne aloi.
Ça vous fait rire, Cécile?
Ce qui me fait marrer, c'est
Ségolène Royal qui le proposait en 2007.
Oui, je sais très bien, en imaginant que la discipline militaire va être ce qui est utile et ce qui va réinsérer tout un tas de gens. En fait, ça marche quand d'abord les militaires en ont besoin aussi, parce qu'on ne va pas demander à l'armée française de s'occuper de faire de l'éducatif ou...
Pourquoi pas ?
Parce que ce n'est pas sa mission. Sa mission, et elle est très importante, c'est de défendre notre pays. Mais ce que je voudrais dire, et qui me semble plus intéressant, c'est que si on regarde quelles sont les menaces, puisqu'il y a de réelles menaces, et notamment des menaces de l'étranger, on a été attaqués. Les dernières attaques qu'on a vécues sur notre territoire, c'est les mains rouges sur le mémorial de la Shoah, c'est les têtes de cochon devant les mosquées. On sait que c'est une ingérence étrangère. Et qu'est-ce qu'ils attaquent ? Ils attaquent la cohésion de notre nation. Et donc je pense que si on veut répondre à cette menace, il faut créer les conditions pour être extrêmement unis. Et tous ceux d'ailleurs qui veulent être patriotes aujourd'hui, ils doivent lutter contre la fracturation du pays. Et ça, peut-être que oui, il y a des moyens pour trouver des lieux, pour que les gens se connaissent, pour qu'on répare les fractures.
Mais quel meilleur moyen que le service militaire ?
Eh ben, y a
on va pas faire, ça va être quoi, des lieux où les gens se connaissent, ben, réparer les fractures ?
On parle
si
que
c'est
de l'armée.
Faire de l'éducation civique.
Ben, c'est pas mal l'éducation civique.
Ben,
je sais pas, vous
c'est
êtes
bidon, ça marche pas l'éducation
non,
civique.
Non, on peut très bien imaginer qu'il y ait des gens.
La Marseillaise en rang serré, le lever du drapeau, ça marche. Mais oui, c'est vrai, mais c'est ça qui fonctionne.
Je redis.
Il faut un peu d'émotion autour du pays.
Eh ben, l'émotion autour du pays, elle se crée sur d'autres sujets. L'émotion autour du pays, elle se crée avec les pompiers. L'émotion autour du pays, elle se crée quand on répond aux catastrophes naturelles. L'émotion autour du pays, elle se crée quand les valeurs ont du sens et sont réellement vécues. L'émotion autour du pays, elle se crée quand on apprend son histoire et quand on accepte ce qu'est devenu et ce qu'est en train de devenir notre pays, c'est-à-dire un pays.
C'est-à-dire, ah oui, donc on apprend son histoire, quoi, coloniale, et on accepte que la France est devenue diverse, etc. Donc, c'est dommage parce que ça, c'est la gauche. On part d'un truc qui est bien, qui est net, service militaire, drapeau, France, Charles de Gaulle, conflit armé, et on arrive dans un gloubi-boulga.
Mais je vous ai dit, c'est quoi les menaces aujourd'hui? C'est pas un gloubi-boulga. C'est quoi les menaces aujourd'hui, Charles? C'est quoi les menaces?
Bah, les menaces, l'ai dit. C'est la Russie, oui. Première menace.
Et qu'est-ce qu'ils font?
L'islamisme, deuxième
qu'est-ce
menace.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de et d'ailleurs, ils font la même chose, de fracturer la société française. Daesh avait théorisé avant les attaques de 2015 que ce qu'il fallait, c'était
fracturer plus la société française que la Russie.
Pas du tout. La Russie utilise les failles de la société française.
Les discours victimaires.
Je parle pas de discours décoloniaux, discours français. Je dis quelle est la France aujourd'hui. La France, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. La France, c'est la République. La France, c'est se donner un destin tous ensemble. Et ça, oui, ça se construit et ça peut se construire de différentes manières et qu'il y ait des moments de réunion collective, qu'il y ait des moments où on adhère à ces valeurs, où on partage ces valeurs.
C'est ça que je comprends pas.
C'est pas en se mettant en garde à vous face au drapeau que ça fonctionne.
Pas sûr.
Merci à tous les deux, Charles Cossini, Cécile Duflo, le débat du vendredi. Il est 7h56, on se retrouve dans un instant. La météo et le journal de 8h à la une du journal de 8h. Vous l'entendrez, c'est inouï. 800 salariés de l'opérateur Orange forcés de déserter l'immeuble de leur bureau. Ça se passe à Marseille. La direction et les syndicats veulent presque protéger désormais les salariés parce qu'il y a de trop grosses tensions avec les dealers dans le quartier des zones de non-droit. Donc désormais à Marseille, les précisions dès le début du journal. La météo plus doux mais pluvieux. Et puis juste après le journal, il y aura Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, quel âge ont les patrons en France ?
Eh bien, ils sont vieux et ils vont bientôt transmettre leurs entreprises. Et ça va fabriquer une régénération du tissu économique comme on n'en a pas connu depuis la Deuxième Guerre mondiale.
À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.